Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc Menant, aujourd'hui chapitre 52, un chapitre qui va nous plonger au cœur de la belle époque, où on va se poser la question de savoir pour qui elle fut belle en réalité. Voilà la question du jour. Nous aborderons ce moment privilégié de notre histoire autour de 1900, avec ses inventions, ses personnalités, son art de vivre. C'est parti. Ravi de vous retrouver, mon cher Marc. Ravi
avec
de vous
plaisir.
Retrouver, mon cher Franck. Maintenant, si je dis pas mon cher, il y a déjà le. Donc, on
très
essaie
attentive.
De rester, oui, très attentive.
Je me demandais si vous auriez un chapeau avec une voilette, etc. Mais oh. Non.
Non, par contre, j'ai mis un peu de rose pour voilà. Mettre un peu de gaieté sur ce plateau, vu que Marc Menant reste toujours sombrement vêtu.
Oh, ben, je vous en prie. L'essentiel, c'est de ne point d'avoir l'humeur sombre.
Attention que vos papiers ne tombent pas de votre poche. Mon cher Franck, non mais c'est vrai, ils vont tomber. En 1889, une nouvelle exposition universelle, la quatrième, après celle de 1855, 1867, 1878, se déroule à Paris. Des millions de visiteurs affluent vers la ville lumière comme aimantée par la Tour Eiffel.
Oui. Ça vous aura pas échappé que 1889, c'est 100 ans après 1789, et donc c'est le centenaire de la Révolution. Et pour les républicains qui maintenant sont bien installés, on a vu les débuts très difficiles de la Troisième République. Mais là, ça y est, maintenant que les élections ont amené dans les chambres beaucoup de républicains, le régime est installé, il est content, il est fier de lui, il veut célébrer le plus possible ce centenaire de la Révolution, et c'est à l'occasion d'une exposition universelle qu'il va le faire. Alors, c'est vrai, vous avez raison, il y a eu les deux grandes expositions de 55-67, celle du Second Empire, il y a eu l'exposition qui n'était pas tout à fait universelle, qui était l'exposition internationale de 1878 pour justement asseoir cette République qui en avait grand besoin.
C'est quoi la différence entre universelle et...
Disons qu'elle n'avait pas tout à fait la même envergure.
D'accord.
Et bon, il y aurait beaucoup à dire sur l'exposition de 78 qui est très méconnue mais qui est passionnante et très drôle, si je puis dire, mais ça nous entraînerait ailleurs. En 1889, alors là, Paris se transfigure littéralement avec notamment, bien sûr, vous l'avez dit, depuis 3 ans et demi, la construction de cette espèce de phare de la liberté, une tour de 1000 pieds. C'est comme ça que les Anglo-Saxons avaient posé le défi. C'est la raison pour laquelle elle fait 300 mètres, hein, c'est 1000 pieds, cette tour qui devait s'appeler la tour de la liberté, la tour de la République. On a cherché 36 noms, ça plaisait aux uns, pas aux autres. Finalement, on lui a donné le nom de l'ingénieur qui en a assuré la construction, mais non pas la conception. Hein. C'était Koechlin et Noguère qui avaient conçu la tour, mais c'est lui qui l'a construite, c'est Monsieur Eiffel, Gustave Eiffel, bien entendu. Et donc, cette tour Eiffel devient non seulement le phare de Paris, mais le phare de la France, mais en quelque sorte le phare d'une civilisation française à son apogée.
Qui est très critiqué quand même à un moment donné. Quand on voit ériger ces morceaux de ferraille, il y en a plus d'un qui trempe la plume.
Dont Maupassant.
Voilà.
Beaucoup étaient très opposés à la tour Eiffel.
On est bien en France.
Moi, j'ai fait partie de ceux qui, quand j'étais jeune, étaient contre la tour Eiffel, donc je me moque même pas d'eux.
Bon, bref. Vous étiez déjà là.
Je ferme cette parenthèse. Non, c'était pourtant bien longtemps après. C'était encore 100 ans plus tard, en 1989. Bref. Ne nous appesantissons pas sur des sujets un peu désastreux, disons-le. Ce qui est sûr, c'est que à partir de 1889 et jusqu'en 1914, c'est-à-dire pendant exactement 25 ans, ça fait un quart de siècle, c'est pratique, c'est beau pour les historiens, la France va vivre sans doute une des plus belles, une des plus rayonnantes, une des plus lumineuses pages de son histoire dans tous les domaines. Et cette exposition de 89 va être en quelque sorte dans Paris Ville Lumière, avec cette fée électricité qui est en train de se répandre partout, elle va être le point de départ, le lancement en quelque sorte de la fête. Il y aura une autre grande exposition universelle, peut-être encore plus extraordinaire, ce sera celle de 1900 bien entendu, pour saluer l'entrée de cette France triomphante dans le XXe siècle. Mais on n'en est pas tout à fait là. Alors, évidemment, il est toujours un peu délicat d'évoquer une longue période de 25 ans comme ça, d'une façon générale, mais C'est vrai que la Belle Époque, c'est quelque chose de singulier quand même. Je parlais des tenues tout à l'heure. Toutes ces dames avec les grandes robes à paniers magnifiques, ces messieurs avec les cannes à pommeau, le canotier, n'est-ce pas, les enfants en costume marin ou les petites filles avec les anglaises qui jouent au cerceau avec les bonnes d'enfants. Enfin, voyez l'ambiance.
Mais pourquoi
quoi.
C'est important de s'arrêter justement
parce que je
ce
pense
moment
que
de la France.
Il y a eu un certain nombre de modèles de civilisation inventés par la France. C'est ce que nous nous sommes tués à tous les trois à démontrer depuis maintenant de nombreuses semaines, depuis plus d'un an. Il y a eu cette espèce d'apogée de l'époque des cathédrales, du temps de Saint-Louis. Il y a eu la Renaissance humaniste, invraisemblable, avec tous ces poètes et ces savants. Il y a eu, sous Louis XIV, le Grand Siècle, et puis la puissance militaire napoléonienne. Et bien voilà que, à la Belle Époque, il y a l'art de vivre. La Belle Époque, c'est la bonne cuisine, c'est la belle musique, ce sont les beaux-arts, on verra ça dans un instant. C'est une espèce de douceur d'être et de vivre, en tout cas pour les personnes qui en ont les moyens. Mais ça, précisons toujours que c'est le cas dans toutes les époques, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai que cette belle époque a surtout été belle pour les tenants de la bourgeoisie française. Il est évident que pour d'autres, elle a été sans doute un peu moins belle. En tout cas, elle a laissé le souvenir d'une époque où tout était possible parce que la grande croyance partagée par quasiment tout le monde, je dis quasiment à cette époque, c'est la croyance dans le progrès.
La France des inventeurs. Eh oui, la croyance dans le progrès, la France des inventions, des innovations dans différents domaines. Quels ont été nos grands inventeurs durant cette période?
Il y en a beaucoup. Hein.
Oui. Là, si on fait la liste, on est là pour bonne journée.
Mais vous savez que ça fait quand même du bien à l'âme. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais de montrer des périodes comme ça...
C'est l'enthousiasme, c'est le tout possible. Et puis c'est l'homme. Alors on a eu les frères Montgolfier. Déjà, on s'est élevé, mais maintenant on ambitionne l'autonomie, un moteur qui vous porterait dans les airs. Et nous serons, grâce à Clément Ader, les premiers à s'offrir ces grandes sensations. Bon, ça vole pas bien haut, mais on verra ça dans quelques secondes.
Il faut dire qu'il y en a toujours les fâcheux, notamment les Américains, qui veulent nous voler cette primauté. Défendons Clément Ader et son envol de 1890.
Et son éole. Et de toute façon, les Américains, sans nous, ne seraient rien. Alors, en avant. Voilà. Alors, c'est extraordinaire. Mais accordons quand même aux Anglo-Saxons que le train, qui va jouer un rôle déterminant dans le développement de l'industrie et de l'économie, ce sont les Anglais qui en sont les pères, si je puis dire. On viendra derrière. En revanche, côté vélo, il y a les frères Michaud. Et du vélo, on va passer aux quatre roues. Là, ce sont les autos. Tout le monde connaît les 24 heures du Mans. Eh bien, c'est au Mans que l'on verra une première voiture. C'est une voiture menée par la famille Bollé. Alors, c'est le fils qui rendra célèbre la grande aventure de cette usine, Amédée Bollé. Il succède à son père qui avait fabriqué une première auto, mais ça, ce sont des autos à vapeur. Et un jour, il a l'impression que sa Mansell, il appelle la Mansell, elle est capable de franchir des kilomètres et des kilomètres. On est en 1878 et il prend le défi. Alors que vous imaginez, les routes sont prévues pour les chevaux. Eh bien lui, il décide de partir du Mans et d'arriver à Paris. Et cela a un tempo tonitruant. On doit friser les 32 km heure. Faut pas rigoler avec ces choses-là. Oui. Ah, la Mansell. Et le voilà, il n'y a pas de casque, il n'y a rien du tout. À cette époque, la sécurité importe peu. Ce qui compte, ce sont les grandes sensations. Il écope de 85 procès-verbaux pour excès de vitesse. Parce que forcément, le code de la route n'existe pas encore. Mais théoriquement, on ne doit pas dépasser une certaine allure. C'est celle des chevaux dans les diligences. Alors là, il a tout pulvérisé. Il y en a une autre, d'ailleurs, puisque tout à l'heure, Franck évoquait ces dames. Ce sera en 1899, la comtesse de Uzès. Elle a une voiture.
La duchesse d'Uzès.
Voilà. Et elle dit à son fils, allons étrenner l'automobile au bois de Boulogne. Et la voilà qui part. Et elle est arrêtée pour excès de vitesse à 32 km heure au bois de Boulogne.
Nous sommes bien en France.
Nous sommes en France. Mais alors, là, je vous ai parlé du moteur à vapeur. Oui. Il y aura le moteur diesel qui est créé par Daimler et Benz en Allemagne. Mais alors, ce que l'on ne sait pas, aujourd'hui, la voiture électrique, Oui. Eh bien, en ce temps, je dirais que tous les grands spécialistes estiment que l'avenir est à la voiture électrique.
Exceptionnel.
Et on réalise des performances invraisemblable. Et la première voiture qui franchira le cap des 100 km/h, c'est une voiture électrique. Elle est conduite par un Belge, Camille, alors je me souviens jamais son nom, Genazzi. Camille Genazzi, il part, on est à Cher, et hop, 105 km/h et des poussières, vous rendez compte? C'est invraisemblable. Et dans les courses auto, la première, c'est le Paris-Rouen, vous avez 4 véhicules électriques. Mais déjà, on est sur la difficulté de recharger. C'est ça le grand hic. À New York, on aura des taxis électriques. On fabriquera même 4700 voitures par an électriques. Et De Dion, qui est l'un des constructeurs français, estime, lui, que les voitures à pétrole, il y a un remue qui vous taquine les narines. Et que par conséquent,
surtout à l'époque, hein.
Et que par conséquent, l'avenir, c'est vraiment la voiture électrique. Et pour autant, eh bien, elle va finir par disparaître, car le pétrole est quand même plus facile à utiliser. Voilà pour l'automobile. Voyons maintenant...
L'automobile, pardon, avec les grands salons. C'est-à-dire qu'on va avoir bientôt, sous la verrière du palais, du Grand Palais qui a remplacé le palais de l'industrie, ces espèces de salons qui ont commencé d'ailleurs dans les jardins des Tuileries, où les gens se précipitent, tous les gens qui ont de gros moyens veulent monter sur ces espèces de machines qui roulent toutes seules sans qu'on ait besoin d'atteler des chevaux. C'est incroyable. Il faut imaginer ce que ça a dû être pour nos arrière-grands-parents.
C'est fou, c'est-à-dire que les constructeurs pullulent. Vous avez De Dion, vous avez Peugeot, vous avez Panhard, Levasseur. Partout, chacun est là avec ses ouvriers, sa cohorte de gars qui vont à la clé mécanique pour faire en sorte que les engins vont brise. Et je vous l'ai dit, la première course, Paris-Rouen, il y aura ensuite les 24 heures du Mans. Ça, c'est au début du siècle suivant. Ça, c'est pour l'automobile. Voyons maintenant Clément Ader. C'est un fils de famille. On est dans la menuiserie. Et il se montre très, très brillant, très rapidement. C'est un gars qui se tourne au bout de l'esprit grâce aux mathématiques. Il est extrêmement créatif. Il regarde les oiseaux dans sa petite province. Il les voit le voler. Il se dit, ah, ça doit être formidable. Forcément, on associe les frères montgolfiers, les ballons, et puis ces oiseaux qui volent. Et si on battait des ailes, oui, mais si on mettait un moteur, ça serait peut-être mieux. Et il fait fortune en prenant, à un moment donné, le brevet de Graham Bell qui a inventé le téléphone. N'oublions pas cette époque, je vous dis, ça jaillit de partout. L'électricité, puisque là, je vous ai parlé des voitures électriques. Le téléphone, Graham Bell, qui permet aux uns et aux autres de se relier. Et lui, il a une idée extraordinaire. Il prend ce brevet, il invente le théâtrophone. Le théâtrophone, c'est-à-dire qu'il met des micros à l'opéra et de chez lui, il écoute le spectacle. Et ça, ça lui rapporte une véritable fortune, car les plus aisés, forcément, veulent vivre cette situation, le spectacle, comme si on y était, sans avoir à sortir de chez soi. Et grâce à cet argent, enfin, avoir l'avion. Alors, il travaille, il regarde. C'est vrai qu'une chauve-souris, peut-être qu'on l'a réalisé, parce que la grande erreur, beaucoup veulent faire voler. Lui, il a compris qu'il fallait que ce soit fixe. Donc, il conçoit son engin qui aura néanmoins 6 positions différentes. Alors, on positionne et puis en fonction du vent. Reste, il faut avoir le courage de se lancer. En 1890, il a mis un petit moteur de 20 chevaux. Il regarde ça avec ses ouvriers. Et un matin, on est à Gretz, dans la banlieue parisienne. Il est là, il y a un petit terrain qui descend. Il a les ouvriers à côté de lui. On regarde s'il n'y a pas trop de vent. La chauve-souris Léole est là. Il s'arnache comme il peut. Et c'est le moteur. Et le voilà. Oh, mais oui, il vole. Bon, il est déjà écrasé. Mais quand on va vérifier,
qu'est-ce que c'est beau,
on s'aperçoit que oui, la trace, à un moment, disparaît. Et il a parcouru 50 mètres.
Et vous savez, j'ai eu la chance, il y a longtemps, il y a 20 ans maintenant, un peu plus, d'interviewer un vieux monsieur qui était centenaire, il s'appelait Benjamin Renard, qui avait fait partie de ces enfants qui, dans le terrain d'aviation d'ici les Moulineaux, parce que c'est là-bas, avec Farman, avec Caudron, avec tous ces gens-là, par la suite. Hein.
Bien sûr, avec Santos Dumont.
Santos Dumont, oui, bien sûr. Santos, et puis c'est l'époque où, bien sûr, Blériot va traverser la Manche et Roland Garros, la Méditerranée, etc. Et lui, le gamin, il était avec ses copains. Ce jour-là, ils n'avaient pas d'école, ils étaient bien contents. On les faisait allonger tous les 10 mètres dans un champ. Et on leur disait, tu vas voir la machine qui passe là, tu regardes bien si ces roues décollent du sol. C'était pour voir si l'avion décollait ou ne décollait pas, vous vous rendez compte?
Parce que formidable moment.
Vous vous rendez compte, on est en 1890 et le premier vol reconnu sera celui de ces escrocs de frères Wright. Non, les frères Wright, ils
machine
font...
Machine propulsée.
Machine propulsée, ils décolleront véritablement, mais c'est en 1903. Et n'oublions pas, dans toutes les inventions, mais on pourrait rêver comme ça pendant des heures, ma chère Christine. Vous auriez des petits yeux scintillants de petites gamines de 5 ans, comme ça arrive souvent chez vous. Tellement, mais vous avez cette naïveté heureuse, vous aimez vous enchanter.
Eh
bien, n'oublions pas les frères Lumière. Les frères Lumière qui inventent le cinéma. Quand on dit qu'ils inventent, il semblerait qu'avant eux, un Polonais ait réalisé le principe du cinéma. Mais quand ils projettent leur histoire de train qui sort, les gens se cachent, ils ont l'impression que le train va les écraser dans la salle de projection.
Mais quand même, vous imaginez ce que devait être la vie de ces gens de 1900, alors quand ils pouvaient, hein, toujours, on précise, mais vous décidiez d'aller, je ne sais pas, de Chartres à Paris, on vous disait, ben, je vous emmène dans mon engin, vous montiez sur cette grosse... parce que les voitures, elles étaient hautes, hein, c'était comme des calèches. Hein. Vous montiez là-dedans et hop, ça y est, il n'y avait pas de cheval, rien, et vous partiez. Et à un moment, on disait, oh, l'aéroplane, tout le monde regardait, il y avait un aéroplane dans le ciel, et vous arriviez, on est en 97, au Grand Café Capucine, et on vous disait, venez voir la nouvelle invention. Et là, on vous projetait une photo sur un écran et la photo en question se mettait à bouger. Mais bien sûr, nous, ça nous paraît tellement évident, mais pour les gens...
Oui, mais alors, c'est important le décor que vient de planter Franck. Parce qu'il y avait les besogneux. Ceux qui étaient condamnés au travail, il n'y avait pas de jour, un seul jour de repos. On travaillait 17 heures, 18 heures par jour, les gamins.
On attendait la page marque.
Mais
c'est important de savoir, effectivement, parce qu'il a parlé de ceux qui en profitaient.
Bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire, là où Franck a raison, c'est qu'ils ont néanmoins cet enthousiasme, cette passion, ce souffle qui les emporte.
Doucement.
Et quand ils ont un moment de repos,
ils savaient qu'ils travaillaient pour l'invention.
Voilà. Quand ils ont un moment de repos, ils sont là, ils cherchent, ils entendent le moindre bruit. C'est une auto, viens voir, là, un avion. Et on est dans un monde d'hallucinés, un monde où l'avenir de l'homme est véritablement radieux.
Et un monde où l'on chante et où l'on rit beaucoup.
Oui.
Quand on dérushe, comme on dit aujourd'hui, tous ces films qui ont été faits à l'infini en 1900, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens partout en train de rire. On se dit, mais c'est la caméra qui les fait rire, apparemment pas. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite il y a maintenant une bonne dizaine d'années. J'avais cité ça il y a quelques temps. Cette étude montrait qu'à la Belle Époque, on riait entre 4 et 5 fois plus qu'aujourd'hui. Donc, ça faisait partie de la vie. Je pense qu'il y avait quand même, quelles que soient les conditions de vie, enfin pour beaucoup en tout cas, il y avait une vraie joie de vivre. On avait confiance dans l'avenir, on avait vaincu la nature grâce au progrès technique.
Voilà, c'est ça. On domine la nature et puis il y a cette musique, l'accordéon, les flonflons, vous sortez de la mine, vous êtes une gueule noire, allez, on va aller voir les filles. Et on scintille au quotidien quand on a ces instants de détente, on ne pleure pas. On essaie de grappiller tout ce qui peut vous valoir un petit enchantement. Les butineurs du bonheur.
Je me permets de vous arrêter, de vous interrompre un peu, parce que je vois que messieurs sont emportés par la Belle Époque. On parlera de Sarah Bernhardt, on parlera de l'anarchisme, on parlera de tous ces sujets. Mais une question, l'Empire colonial français. Et l'Empire colonial dans tout ça, mon cher Franck, quelle place occupe-t-il dans l'économie, dans la politique, dans l'imaginaire,
une place
à ce moment-là?
Absolument essentielle, et vous avez raison d'ajouter l'imaginaire, parce que ça fait partie... N'oubliez pas que la France est une république qui se bat au milieu de plein de monarchies. Elle est entourée de monarchies, c'est bien simple. Il y a des royautés, des empires partout. Elle est la seule république là au milieu qui a eu beaucoup de déboires, on vient de raconter dans les émissions précédentes, et il lui faut un socle et une assise. Et la grande assise française, disons-le, surtout à cette
belle époque, c'est l'Empire colonial. Alors, on a eu l'occasion déjà de parler de la conquête de l'Algérie, bien sûr. Plus tard, il y aura les protectorats du Maroc et de la Tunisie. Donc ça, c'est l'Afrique du Nord. Il y a toute l'Afrique occidentale française, ce gigantesque continent. Les Français et les Anglais se le sont partagés sur le dos des Portugais et en laissant une toute petite place aux Allemands. Mais essentiellement, vous avez au sud et à l'est les colonies anglaises, à l'ouest et au nord les colonies françaises.
Et en Afrique du Sud, il y aura les Hollandais. C'est leur refuge. C'est important de dire parce que ça
récupéré par les Anglais.
Voilà, c'est ça.
Mais parce que les Anglais ne laissent pas beaucoup de chance à grand monde, vous savez, il faudrait parler de tout ça, il y aurait tant de choses à évoquer. Simplement, cette Afrique occidentale française est un lieu majeur de développement, d'exploration, très important pour les arts aussi, parce qu'on découvre les masques africains, on découvre d'autres. Donc ça va jouer un rôle considérable dans la modernisation de notre propre art, si je puis dire. Donc dans l'imaginaire, c'est une chose très importante. Alors il n'y a pas que l'Afrique, hein, bien entendu. Il faudrait citer évidemment tous les confettis de France un peu partout, mais bien sûr l'Extrême-Orient avec cette colonie de l'Indochine, hein, qui comporte effectivement la Cochinchine, le Tonkin, le Laos et l'Annam, et notamment au Tonkin, autour d'Hanoï, une espèce de colonie d'une richesse considérable, avec la nécessité pour relier ces colonies, de développer des lignes maritimes, en l'occurrence ce sont les messageries maritimes, on passe, vous savez, à l'époque par le canal de Suez, etc. On passe beaucoup de temps à bord des bateaux à l'époque. Les grands paquebots, parce qu'on a parlé des aéroplanes et des toutes premières automobiles, mais il faudrait parler de tous ces grands paquebots qui sont la fierté de la belle époque, il y en a énormément. Le plus célèbre de tous, il est anglais et anglo-américain, il n'est pas français, ce sera le Titanic, il subira mauvaise fortune en 1912. Mais on en a, nous, qui s'appellent le France, l'île de France, etc. Voilà. Ce sont des paquebots absolument magnifiques. Le France de l'époque, je précise.
Oui, oui. Oui.
Bon, on pourrait parler de cet empire colonial. Trois choses à retenir sur cet empire colonial. D'abord et avant tout, ce ne sont pas ou peu des colonies des colonies commerciales. Vous avez, avec les Anglais, vous savez, des comptoirs extrêmement efficaces qui nourrissent la métropole anglaise d'une façon extraordinaire. Nous avons des colonies de peuplement souvent difficiles à gérer. Ce sont des colonies dont la gestion est assez difficile, il faut bien le dire. Deuxième chose, et ça a un lien direct avec la chose précédente, c'est l'administration coloniale. Nous avons un corps d'administrateurs coloniaux extrêmement efficaces qui vont faire leurs armes là-bas et qui d'ailleurs vont jouer un rôle très important dans ce qui est déjà la naissance de ce que bientôt on appellera la technocratie. Ça pourrait naître là d'une certaine façon. Puis la troisième chose concernant ces grandes colonies françaises, c'est qu'elles auront d'une certaine manière été des éléments de rayonnement pour la France, pour la langue française, pour la culture française, pour le droit français. Donc il y a une espèce d'extension de l'esprit français, notamment de la langue, sur tous les continents. Ça joue un rôle absolument essentiel.
C'est important. Langue et cet esprit des Lumières.
Voilà.
Parce que on a le sens de la liberté qui était inimaginable dans nombre de contrées. La liberté dans son absolu, dans son principe philosophique.
Pas dans sa pratique.
Non, mais bien sûr.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de violence coloniale. Ça, c'est
incroyable. Oui, c'est ce que j'allais dire à l'heure de la déconstruction classique. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'un peu d'enjoliver
J'essaie de montrer les deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement, il y a une architecture incroyable, il y a ce développement culturel, il y a cette émancipation de populations entières. C'était le projet de Jules Ferry à l'époque où il crée, au nom de la République, ces colonies qui étaient censées être émancipatrices. Mais il y a aussi des duretés, des violences coloniales. Il y a un système de hiérarchie qu'on ne connaîtrait pas du tout en métropole. Le moindre petit employé colonial a, dans n'importe quelle colonie, une armée de domestiques.
Voilà, ça n'existe pas. Il a l'arrogance du parvenu, voilà. Vous voyez, c'est le mépris de l'autre.
Et c'est très important de dire ça, parce que ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on ne dit pas assez, que l'opposition aux colonies et au colonialisme existait déjà à cette époque et était déjà très développée. Absolument. Ce qui est bizarre, c'est qu'au tout début, c'était plutôt la gauche qui développait les colonies et la droite qui s'y opposait. On va voir ça se renverser avec le début du XXe siècle où c'est la droite qui va vouloir étendre les colonies et la gauche qui s'y opposera pour des raisons sociales.
Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va marquer une pause et dans un instant, on va parler de la culture. La culture française, à ce moment-là, on parlera des prémices de l'anarchisme et du nihilisme. En France, on parlera de la grande Sarah Bernhardt, l'égérie quand même de cette belle époque. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de la belle histoire de France, chapitre 52, la belle époque. Mais la belle époque pour qui ? On en parle tout au long de cette émission passionnante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se disait, messieurs, la culture française à cette époque, qu'est-ce qu'elle était ?
Elle est incroyable.
Florissante, oui, c'est ce que dit Franck. Et je crois que sincèrement, on a, sur ce plan intellectuel, apporté énormément. Il faut voir la colonisation en deux parties.
Hein, c'est-à-dire oui, que pour la colonie, mais même pour
oui, non, mais là, on a ce goût de l'enrichissement de l'esprit, de faire en sorte que tout le monde entre dans une forme de prospérité intellectuelle et que la langue soit merveilleusement bien servie. C'est dans les écoles où on dessine les mots. Je dirais
les pleins et les déliés.
Et tout à chacun se toque de cette connaissance. C'est à qui sera le plus brillant avoir le certificat d'études. Ça vous distingue dans votre campagne. Vous êtes le petit petiot, là, celui qui représente l'intelligence. Et avec ça, votre cartable sous le bras et les prix distribués à la fin de l'année, vous représentez pour la famille l'honneur, la distinction.
Et vous imaginez l'importance des artistes de l'époque. Quand on parle de Claude Monet ou d'Auguste Renoir, quand on parle du sculpteur Auguste Rodin, incroyable Rodin, c'est le démiurge de cette belle époque.
Massenet, Debussy,
et voilà, quand vous passez à la musique, Massenet, effectivement, tout le monde partout siffle et chante dans les rues les airs des grands opéras de Massenet, de Manon, etc. Et Debussy, bien sûr, et tous les autres d'ailleurs, tous nos grands Effaurés, Chausson, tous nos grands, ce qu'on appelle la musique française. Vous savez, quand dans le monde de la musique classique, on dit la musique française, mais c'est cette époque-là. Et puis, bien sûr, comme dit Marc, les plus grands écrivains qui soient, d'Anatole France à Marcel Proust, vous imaginez.
Octave Mirbeau,
fantastique, et des grands dramaturges.
Fédot, Rostand.
Voilà, un grand dramaturge comique, si je puis dire, qui est bien sûr Georges Fédot, qui joue un rôle essentiel pour amuser, alors là, la bourgeoisie dans toutes les villes. Vous imaginez le nombre de pièces de Fédot à l'affiche, c'est extraordinaire. Et puis alors, celui qui, en 1897, va ramasser tout ça, le résumer, le synthétiser, va montrer à la face du monde entier ce qu'est le panache français, va faire vibrer cette culture, peut-être pour la dernière grande fois. C'est le plus grand succès de toute l'histoire du théâtre français. C'est Cyrano de Bergerac, et l'auteur, c'était Edmond Rostand, bien entendu.
Est-ce qu'on peut dire rapidement que jamais la France n'a autant rayonné au niveau de la culture?
Oui, mais enfin, n'oublions pas quand même que nous avons été la langue de l'Europe, et que toutes les cours se targuaient de pratiquer.
Oui, quand Marc, même. C'est vrai, mais je pense que le rayonnement de la France, immense au XVIIe, au XVIIIe siècle, est un rayonnement aristocratique de cours. Là, ça touche tous les publics, à toutes les classes. Donc c'est un rayonnement sans précédent, oui, incontestablement.
Mais déjà parce qu'on a les moyens de la diffusion, que ce soit, on a parlé tout à l'heure du téléphone, la radio va naître, etc. C'est-à-dire que le monde entier se trouve connecté. Vous n'êtes plus condamné à vivoter dans votre région et ne jamais dépasser un cercle de 50 km de rayon.
Et vous imaginez tous ces brevets qui sont constamment passés au nom d'ingénieurs français. L'ingénieur, c'est la grande figure de l'époque, bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, nos inventeurs sont souvent obligés d'aller breveter à l'étranger. Mais à l'époque, c'est l'inverse. On a énormément d'étrangers qui viennent en France breveter. Et la France est de loin au monde le pays qui brevette le plus à l'époque. Donc c'est fondamental, tout ça.
Fondamental, et on va s'arrêter sur l'égérie de la belle époque. Il est des femmes qui ont durablement marqué l'histoire artistique et culturelle de notre pays. Et c'est notamment le cas de l'immense comédienne Sarah Bernhardt. Franck, alors, vous allez nous brosser un peu le portrait de cette femme, la première actrice à suivre des tournées sur les 5 continents.
Vous voyez, Madame Sarah, hein, Notre-Dame du théâtre, comme certains l'appelaient, c'est Sacha Guitry qui la connaissait bien, parce que lorsqu'il était enfant, Sacha était né en 85, et lorsqu'il allait avec son père, Lucien Guitry, rendre visite à Madame Sarah, c'était la grande cérémonie du dimanche, on allait voir Madame Sarah, et Sacha Guitry a dit, j'ai longtemps cru que pour tous les enfants de France et de Navarre, il y avait le moment incontournable où on allait voir Madame Sarah. Bon, elle était évidemment la plus célèbre, c'est la première célébrité de toute l'histoire de l'humanité. Célébrité au sens superstar. Incroyable. Dites-vous que cette femme, lorsqu'elle arrive dans un pays, que ce soit la Russie, les États-Unis, l'Angleterre, n'importe où, le pays s'arrête. C'est un événement national. Toutes les vitrines de tous les magasins mettent sa photo en grand. Vous imaginez ce que c'est? C'est complètement fou. On dit qu'elle va jouer jusque dans les fins fonds du Far West et que, évidemment, elle joue devant des Sioux qui ne connaissent pas un mot de français, mais qui, à chaque tirade de racine, tirent un coup de feu en l'air. Avec cette voix très haut perchée, un peu légèrement vacillante, comme ça, que nous connaissons grâce à des enregistrements, certes, qui rendent, je crois, assez mal justice à l'immense talent de ce que devait être Sarah Bernhardt, parce que, évidemment, nous n'avons plus cette musique-là dans l'oreille, et puis surtout, la technique, sans doute, nous trahit un peu. Elle est celle que Proust a surnommée dans sa recherche du temps perdu, la Berma, vous savez, cette espèce de monument du théâtre. Mais alors, elle n'est pas seulement une femme de théâtre, c'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette femme a elle a eu comme soupirant des gens comme Émile de Girardin, Octave Mirbeau, dont on parlait, le peintre Georges Clairin, Gustave Doré, le grand dessinateur, on dit aussi peut-être Gustave Moreau, le grand peintre. Elle est celle
qui a... C'est important, la liste des prétendants.
On pourra citer d'autres.
Je fais une petite parenthèse aux téléspectateurs parce que pendant la préparation de l'émission, on a essayé de lister. Elle était longue, la liste.
Parce que là, je prends Sarah Bernhardt à un âge déjà mûr. On est à la Belle Époque, mais il faudrait prendre toute. Elle était déjà célèbre sous le Second Empire, hein, quand même. Faut comprendre ça. Donc évidemment, c'est
elle
à la Belle Époque.
Elle était très courtisée.
Alors, elle a repéré Oscar Wilde. C'est elle qui découvre Mucha, vous savez, l'affichiste qui doit être autrichien, si je ne m'abuse. C'est elle qui soutient Lali, qui favorise Gallet, qui a découvert Guimard. Elle est la muse de Gabriele D'Annunzio, de Maurice Maeterlinck. Tout ça est complètement fou, vous imaginez? Et elle adore les excentricités, parce qu'elle a compris une chose, c'est la première femme qui comprend la publicité. Et alors, elle est aussi la première à avoir donné une interview. On lui dit, madame, il y a un journaliste qui va venir vous voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va vous poser des questions. Alors le journaliste arrive très impressionné d'arriver devant le monument Sarah Bernhardt et d'une voix chevrotante, il lui dit, madame, puis-je vous demander quel est votre rôle préféré dans le répertoire? Et elle lui répond, ça ne vous regarde pas. Parce qu'on n'était pas habitué à l'époque, bien sûr.
Répondre au journaliste.
Et il faut comprendre que cette Sarah Bernhardt, on pourrait en parler pendant la nuit entière, hein, mais un mot peut-être sur Sarah Bernhardt et sur ses excentricités. Elle récupérait tous les animaux sauvages possibles. Donc elle avait chez elle à Belle-Île, vous savez qu'elle avait un fortin à la pointe des Poulains à Belle-Île, où elle allait passer toute la belle saison. Elle avait des alligators qu'elle avait rapportés d'une de ses nombreuses tournées aux États-Unis. Et alors un jour, un alligator attrape son petit chien, elle avait un chihuahua, et hop, il n'en fait qu'une bouchée. Oh, le méchant, dit-elle. Elle avait des boas, mais sauf que le boa, un jour, est monté sur le canapé du salon, il a commencé à bouffer les coussins, il en est mort. Enfin, des histoires à n'en plus finir. Et elle-même avait dit qu'elle voulait se faire greffer une queue de tigre.
Non.
Et elle disait, comme ça, quand je serai contente, je remuerai la queue et ça se fera remarquer.
Ah oui, pour elle, tout était incroyable. Pour elle, tout était possible.
Eh bien, figurez-vous qu'elle avait trouvé un chirurgien qui avait accepté l'opération. Quand même, elle n'est pas allée tout à fait jusque-là. On sait que plus tard, un peu plus tard, pendant la guerre, en 1915, elle sera obligée, hélas, de se faire amputer d'une jambe et elle aura une jambe de bois. Ça ne l'empêchera pas de jouer jusqu'à la fin de sa vie. Et vous savez, quand elle meurt, il y a cette chose absolument extraordinaire. Tout le monde sait que Madame Sarah est très mal. Dans la France entière, à l'époque, il y a une nouvelle invention qui s'appelle le téléphone. On est au début des années 1920. Et donc là, je déborde un tout petit peu de la Belle Époque. Mais elle reste l'égérie de la Belle Époque, d'avant-guerre, bien sûr. Et donc, dans tous les théâtres de France, on joue. Et le téléphone sonne pour prévenir d'abord le théâtre Sarah Bernhardt, qui aujourd'hui est le théâtre de la ville de Paris et place du Châtelet. Et puis les autres. Et puis ça fait tache d'huile. Et partout, dans toutes les salles de France, à la minute où on apprend la mort de Sarah Bernhardt, on baisse le rideau. D'un seul coup, il a fait très noir, a dit un écrivain de l'époque.
Formidable épopée. Mais tout n'est pas si beau. Le temps des anarchistes. Si la Belle Époque est douce pour certains, mon cher Marc, brillante et innovante, on ne peut pas ignorer qu'elle est secouée en même temps par un anarchisme, par un nihilisme très violent. Peut-on dire, Marc, que l'on assiste à une dégradation des relations au sein de la société à cette époque?
Moi, je ne le traiterai pas comme ça. Je dirais que on est aussi, puisque ce monde se développe, que tout le monde tient au progrès, c'est comment ce progrès pourrait apporter à tous une évolution dans son quotidien. Alors là, il faut remonter avant cette belle époque. C'est Proudhon, c'est Bakounine. Ce sont ces gens qui disent la société, ne l'envisageons pas de façon marchande. Imaginons-la pour que les hommes, dans leur ensemble, puissent connaître une vie de réalisation personnelle. Ne soyons pas dans la consommation. Ils ont bien compris que l'on voulait pousser les êtres à la production et à ce rôle insipide, celui du renoncement, qui est le rôle du consommateur. Eh bien non, il nous faut un monde de conquérants et l'ouvrier doit en être. Voilà ce qui les occupait. En 1881, vous avez à Londres la Grande Internationale. Et là, on constate que malheureusement, ce monde, oui, il y a tout ce que nous avons décrit depuis tout à l'heure, mais il y a ce malheur au quotidien. Il y a ces familles dans les taudis, dans les masures, ces gamins qui sont là, qui meurent avant d'avoir pu germer dès l'âge de 4 ans. Ces familles qui sont laminées, où il n'y a pas, non pas l'espoir d'une existence, mais il n'y a même pas d'existence. Alors camarades, c'est la lutte. Il faut faire tout, faut sauter tout cela. Il nous faut renverser le monde avant qu'il ne s'enracine dans ces injustices. Et donc, on va passer à l'exécution de la théorie. Il nous faut maintenant être dans l'exécution. Ils sont aidés par une invention extraordinaire. On vous l'a dit, c'est cette époque où chaque jour, il y a une nouvelle trouvaille. Et celle-là, elle est déterminante dans l'installation du nouveau monde. C'est la dynamite de Nobel. Bah oui, la dynamite, ça permet d'éventrer la terre, de creuser les montagnes,
de faire
voilà, des routes. C'est extraordinaire. Eh bien, eux, ils vont l'utiliser pour faire sauter les hommes. Et qui d'abord? Eh bien, ceux qui représentent l'injustice, c'est-à-dire les magistrats. Ravachol se charge d'un premier attentat. Et puis, il en commet un deuxième. Il est arrêté. Il est exécuté. Je peux vous citer nombre de noms, mais ceux qui dominent. Vous avez Émile Henry. Émile Henry qui fait sauter la gare, le terminus. Vous avez
la brasserie du terminus.
La brasserie du terminus. Vous avez Vaillant. Et ces hommes-là, à chaque fois, quand ils sont devant leur juge...
Jettent des bombes dans le public. Hein.
Non, mais oui, mais il n'est pas question de faire attention. L'important, c'est de toucher la société. Cette société, elle est innommable. Les innocents, de toute façon, ils sont perdus puisqu'ils n'ont pas de place. Alors, ce qui compte, c'est d'empêcher que ce monde se perdure. Il faut le laminer littéralement. Et devant leurs juges, ils ont une sorte d'arrogance. Ils disent « Vous ferez tomber ma tête ». Et alors, une autre tête, se dressera devant vous. Jamais vous ne nous arrêterez.
Ils se vengent les uns les autres. Par exemple, lorsqu'il va assassiner le président Carnot, dont on parlait tout à l'heure.
Ça, c'est Caserio.
Caserio va vouloir venger Vaillant. Et puis, d'autres voudront venger Caserio. C'est une espèce de jeu sans fin, bien sûr.
Voilà, aussi. C'est l'hydre. On coupe une tête et il y a une autre tête qui pousse. Et ils le disent. Et à chaque fois, ils provoquent les uns derrière les autres. Et ce courant est un courant d'utopie, c'est un courant meurtrier, mortifère. Rien ne peut l'arrêter. Il sera repris bien des années plus tard par Jules Bonneau et les siens, mais sans leur voter les circonstances atténuantes, il faut bien comprendre que ces gens ne sentent pas qu'il y a une capacité d'écoute de la part de ceux qui détiennent les rouages économiques. Que le patronat est fermé, que quand une grève est déclenchée, que se passe-t-il? Eh bien, on envoie l'armée. N'oubliez pas que les forces de l'ordre, en ce temps-là... Donc, c'est l'armée. On tire. Vous avez des mineurs...
Les vignerons du midi.
Voilà, les vignerons du midi, partout. Et dans ces conditions-là, il n'est pas question d'envisager d'être conciliant. Il nous faut l'extrême, l'extrême, l'extrême. Nous n'avons rien à perdre, même pas notre vie. C'est une sorte d'engagement nécessaire et viscéral pour se voter un avenir au peuple.
Ça permet tout ça de voir à quel point il y a quand même une grande animosité entre les différentes catégories de la population. Il y a une autre grande affaire qui va profondément marqué, c'est ce tout début de XXe siècle, c'est en 1905, la séparation de l'Église et de l'État. et avec les fameux inventaires, notamment quand vous avez les agents de la force publique républicaine qui débarquent dans les communautés religieuses pour faire des inventaires de biens. Vous imaginez, c'est vécu par toute cette vieille catholicité qui est là depuis des siècles. C'est vécu comme une agression folle. Donc il y a... On a montré la belle époque des voilettes, des cerceaux, des jeux de plage et des manèges. C'est vrai que ça existe et c'est incontestable. Il y avait une grande douceur de vivre et l'on riait et l'on chantait. Tout ça est vrai. Mais sachons bien que dans tous les coins de la société, il y avait aussi les ferments d'une grande violence qui peut-être d'une certaine manière trouvera cette violence à se résorber dans le cataclysme effroyable de la Première Guerre mondiale qui va commencer là dans quelques mois maintenant.
Ça sera la communion en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier cette lutte, non pas de classe, mais cette lutte de la foi. C'est-à-dire qu'on finit par estimer que la religion protège les nantis. Que les nantis, au nom de la religion, que vous accordent-ils? Eh bien, ils vous accordent l'aumône, ils vous accordent la charité. Donc c'est une forme de mépris. Et de là, comment se désengorger de l'Église, des luttes phénoménales qui se traduisent par cette loi de 1905 où l'homme doit exister en dehors du Tout-Puissant et théoriquement avec l'espoir que tout à chacun trouve son quotidien à peu près correct.
Alors la semaine prochaine, on fera effectivement la guerre, comme vous l'avez dit, de 1914. Mais pourquoi vous ne m'avez pas proposé une émission sur la laïcité?
Ah, c'est une bonne question. On aurait pu faire.
Non, ça sent le coup monté avec Marc.
Pas du tout. Mais je veux dire, non, mais vraiment, par exemple. Mais
non,
mais
on a parlé, beaucoup de la laïcité, dans l'émission précédente, mais dans celle d'avant.
Bien sûr, mais c'est de 1905. Bon, allez, je ferme la parenthèse, je vous laisse réfléchir jusqu'à la prochaine émission. Mais un dernier mot, un système d'alliance dangereux, justement, qui va emmener à la guerre de 1914. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus?
Avec notamment un rôle de plus en plus marquant de l'Allemagne. Il y a nouveau pays, n'oubliez pas qu'il date de 1871, il est tout jeune, et il a en plus à sa tête, depuis la fin du 19e siècle, pendant toute cette période qu'on appelle la Belle Époque, vous savez, il y a deux stars à la Belle Époque. Il y a Sarah Bernhardt, dont je viens de vous dire un mot,
très pacifique,
et Kaiser, qui est nettement moins pacifique. Lui aussi est une star. Quand il arrive quelque part, tous les garçons d'hôtel connaissent, rêvent de ses très somptueux pourboires. Il amuse la galerie, si je puis dire. Il a beaucoup d'allure avec son bras dont il ne se sert pas, sa moustache en guidon de vélo, ses grands chapeaux à plumes. C'est un personnage, presque un personnage de théâtre, qui fait des revues militaires à longueur de temps, qui se croit le roi partout. C'est un peu le cas au demeurant. Il est, ne l'oubliez pas, chez lui maintenant en Alsace et dans la moitié de la Lorraine. Donc tout ça joue un rôle essentiel. Et ce Kaiser, cet empereur allemand, il est belliqueux. On le verra à l'occasion d'un certain nombre d'affaires coloniales, notamment l'histoire dite de la canonnière d'Agadir, sur laquelle on ne va peut-être pas s'étendre maintenant. Mais il y a la volonté de l'Allemagne de s'imposer sur les mers et, dans la mesure du possible, de se constituer un empire colonial au détriment des deux grands empires que sont l'Empire britannique, qui est le premier, et l'Empire français, qui est le second.
C'est un peu la revanche. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 1870, mais ils restent confinés à l'Europe. Alors eux aussi... Ils doivent conquérir le monde.
Et cet empereur va constituer des alliances solides, nourries, un peu avec la Sublime Porte, hein, avec le sultan de Constantinople, mais c'est l'homme malade de l'Europe, l'Empire ottoman, c'est plus grand-chose, bien sûr, avec l'Italie qui joue un rôle essentiel, et puis surtout, bien sûr, avec cette Autriche dont on aura l'occasion de reparler. C'est un axe qui se constitue. Et contre cet axe, qu'ont fait les Français ? Eh bien d'abord, ils se sont très bien entendus avec les Russes pour prendre un peu l'Allemagne en tenaille. Et c'est étonnant de voir le président de la République française devenu le meilleur ami de l'empereur autocrate de toutes les Russies. Bon, c'est comme ça. Et puis, bien sûr, les Français et les Russes s'entendent très bien avec les Anglais. Jusque-là, on se dit...
C'est un revirement incroyable dans l'histoire.
N'est-ce pas ? Et on se dit, c'est un équilibre des puissances, comme vous le voyez sur la carte. Vous voyez, vous avez les puissances jaunes qui enserrent la grande puissance qu'on appelle l'Heartland, hein, la puissance bleue, là. Eh bien oui, mais le problème, c'est qu'on s'est engagé dans des accords militaires qui font que ça va créer évidemment un engrenage et que cet engrenage nous conduira tout droit dans la guerre.
Tout droit dans la guerre, ça sera notre prochaine émission. On va faire un petit résumé de cette émission pour vous qui nous suivez. Alors, premier point, entre l'exposition universelle de 1889 et le début de la Grande Guerre, en 1914, la République française connaît un quart de siècle de grande expansion dans tous les domaines. C'est la belle époque. Deuxième point, ces ingénieurs, ces administrateurs, mais aussi ces artistes dont la légendaire Sarah Bernhardt fonde la France avec son empire colonial, une puissance majeure. Troisième point, les tensions sociales et politiques n'en restent pas moins vives, générant des grèves, générant des émeutes. De nombreux attentats témoignent aussi de la vigueur de l'anarchisme en 1900. Nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. Deux livres, messieurs, pour terminer. Paul Morand, ah oui. 1900.
Ça, c'est quand on aime la littérature en dehors de tout. C'est-à-dire que à une époque où la plume devient fainéante et bien sèche, réjouissez-vous, auréolez-vous avec le style et la musique.
Ça, c'est Paul une merveille Morand. Absolue. Hein.
Voilà.
Ce livre est une merveille absolue. Malheureusement, il n'est, comme vous pouvez le voir, là, vous avez vu la photo de la couverture, il n'a pas été réédité depuis très, très, très longtemps.
Donc, courez les bouquinistes.
Voilà.
Et Sarah Bernhardt, pour vous?
Oui, c'est Henri Gidel qui a fait de très très belles biographies chez Flammarion. Henri Gidel qui nous fait vivre la vie démente de cette petite Rosine qui deviendra un jour la célèbre Sarah Bernhardt. Moi, je n'ai parlé là de quelques années et de quelques petits aspects. On aurait pu, alors là, il y aurait tant de choses à dire sur Sarah Bernhardt. Il le fait, lui, Henri Gidel.
Merci Franck Ferrand, merci Marc Menant de nous avoir transportés pendant cette émission à la belle époque. La semaine prochaine, comme en 14.
Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.